tout de suite Histoire d'archives. Et bonjour, Laure Franek, directrice adjointe des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Bonjour.
Bonjour Odile.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'évêque Soanel.
L'évêque Soanel. Alors, c'est une personnalité bien connue du département, hein, l'évêque Soanel, qui était l'évêque de l'ancien diocèse de Senez. Il a officié à la fin du 19e jusqu'à... Il a été démis de ses fonctions en fait en 1727 parce qu'il avait des sympathies plus qu'affirmées pour le mouvement janséniste qui a été interdit. C'est un évêque sur lequel nous travaillons en ce moment parce que le service départemental d'archéologie est en train de piloter ce qu'on appelle un projet collectif de recherche sur l'ancien territoire de Senez. C'est un projet... de recherche, comme son nom l'indique, qui associe des personnalités très très différentes, aussi bien du monde universitaire, de jeunes chercheurs, des gens de différents services, notamment du conseil départemental. Il y a les gens de la réserve géologique qui participent, les archives départementales, mais aussi le monde associatif. Et l'idée, c'est de rassembler les connaissances que les uns et les autres ont sur un territoire donné, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc c'est très vaste. Et puis on fera un point de tout ce qu'on a pu rassembler et ça donnera sans doute lieu à déjà un rapport, mais une publication, peut-être une exposition. Voilà, c'est une espèce de fil rouge qui va nous conduire pendant 3 ans sur ce territoire qui est vraiment passionnant. Alors le service d'archéologie travaille actuellement à des fouilles dans l'ancienne cathédrale de Senez. Certains ont peut-être eu l'occasion de visiter ce chantier pendant les journées du patrimoine. Voilà. Et donc, du côté des archives, nous travaillons alors, notamment sur ce fameux évêque, parce que, comme tous les évêques, il a fait ce qu'on appelle des visites pastorales. Les visites pastorales, on parlerait aujourd'hui de tournée d'inspection de son diocèse. Alors, il en a fait une grande au début de son... quand il a pris ses fonctions, et puis il en a fait une autre à peu près vers le milieu de la période où il était évêque. Et alors, ce sont des visites qui sont... Alors, les visites pastorales, en général, sont toujours intéressantes à étudier d'un point de vue historique, parce qu'évidemment, l'évêque vient et fait le point de l'état de l'Église, l'état de la religion, de la religiosité des villageois. Mais alors, l'évêque Soanel, il est très, très précis dans ses propos. D'abord, il écrit très bien. C'est un français qui est très moderne. C'est assez étonnant, d'ailleurs, pour un texte de la fin parce qu'on est vraiment à la fin du 17e, début 18e, et c'est déjà une écriture qui est très facilement accessible pour nous. Et il est très... Alors, il est peu amène. C'est un rigoriste. Donc, alors, évidemment, personne n'échappe à ces remarques qui sont parfois assassines, mais tout ça est toujours très bien écrit, comme on peut imaginer qu'un évêque pouvait s'exprimer. Et donc il fait aussi bien le point sur les biens de l'Église. Donc en fait, il cherche à faire valoir les droits des propriétés de l'Église. Et pour ça, et ça c'est vraiment intéressant au niveau historique, il remonte à des archives dont il dispose et dont on ne dispose plus forcément aujourd'hui. Donc il cherche à prouver que telle terre appartient bien à telle Église, que tel monastère a bien fondé telle chapelle. Enfin, c'est vraiment très précis. Il fait, comme tous les autres, un point sur l'état du cimetière, l'état du mobilier dans l'église. Et puis là où il devient vraiment très intéressant et d'un point de vue à la fois sociologique et de l'histoire des mentalités, c'est qu'il examine la façon dont les villageois vivent. Alors évidemment, pour lui, les villageois s'amusent un peu trop. Alors bon, faut imaginer que, en fait, l'idée étant qu'on devait travailler 6 jours sur 7 et le 7e jour, le jour du Seigneur, il était consacré à Dieu. Or, ces villageois s'adonnent parfois à des danses, des jeux, qui, au regard d'aujourd'hui, paraissent bien innocents, mais qui, pour cet évêque, ne sont absolument pas admissibles. Donc, il le signale. Et alors, ce qui est plus surprenant, enfin, pas surprenant quand on connaît l'évêque Soanen, mais surprenant quand on aborde ça de but en blanc, c'est que le personnel ecclésiastique n'échappe pas à ses foudres. Peu de prêtres trouvent grâce à ses yeux, hormis ceux qu'il a formés au séminaire, en gros. Hein, je caricature un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Ils trouvent que le clergé n'est pas assez éduqué, qu'ils ne prennent pas assez en compte l'instruction des enfants. Ça, c'est intéressant, par exemple, qu'il précise, enfin, vraiment, il insiste là-dessus. Il trouve qu'il y a un laisser-aller général. Parfois, il va même au-delà dans ses accusations qu'il y a des petits arrangements entre les uns et les autres pour faire passer certains soucis. Ça s'adresse. Quand on ne lit que ça, on se dit oh là là, mais quelle vie quoi. Ça devait être quand même assez dur. Je vais lire quelques extraits parce que c'est à la fois bien écrit et puis c'est très parlant, donc les auditeurs comme ça pourront un peu se rendre compte. Autre intérêt de ces visites pastorales aussi, c'est que parfois il fait le point de, alors il appelle ça les antiquités, hein, en fait les vestiges qu'il peut voir. Donc là aussi c'est très intéressant au point de vue de l'histoire et de l'archéologie. Par exemple, il explique que tel endroit, il y a un vestige de château, que là il y a des antiquités romaines. Voilà, donc c'est vraiment assez précis. Et enfin, dernière chose, il évoque parfois des superstitions. Alors ça, c'est aussi très intéressant à lire. Alors bon, j'ai pas fini parce que c'est quand même deux gros registres, donc je suis pas prête de les avoir tous lus. Mais là, j'ai repéré déjà deux superstitions. Alors, il y en a une qui est intéressante. C'est toujours intéressant quand en plus ça le prêtre est associé à cette superstition. Alors il y a une des superstitions, le prêtre de la paroisse est le sixième fils d'une famille de sept, de mémoire. Ou alors je me souviens plus si c'est sixième fils d'une famille de six ou sixième fils d'une famille de sept. Mais visiblement, on pensait que les sixièmes fils de ces grandes fratries étaient doués d'un pouvoir de guérison. Et donc, le prêtre est appelé auprès des malades. Et alors, ce qui est amusant, c'est que l'évêque Soanen, en fait, reproche au prêtre, évidemment, de recevoir des dons, en gros d'être payé pour ses pouvoirs de guérisseur. Alors déjà ça lui plaît pas du tout. Et puis termine son texte en disant qu'il faut que le prêtre explique que si les gens guérissent, c'est grâce à la prière et c'est pas grâce à un pseudo don dû à la place dans la fratrie. Bon, ça. Et alors une deuxième superstition aussi qui est bien détaillée où des gens pensent, alors un présumé saint enterré dans la montagne, saint qui n'est pas saint aux yeux de l'évêque évidemment, non, saint dans le sens saint homme, je pense en fait que c'est comme ça que les gens l'entendaient, et donc les gens malades se rendent sur sa tombe et on dit qu'il faut s'endormir sur la tombe, passer toute une nuit sur la tombe pour guérir, et que ceux qui ne font que s'y rendre sans dormir ne peuvent pas guérir. Alors là, évidemment l'évêque et tout à fait contre, c'est pratique. Enfin, voilà, donc j'ai dressé très très rapidement un peu un panel des informations qu'on peut trouver. Ça va vraiment de choses très précises sur l'état des édifices religieux jusqu'aux pratiques. On se dessine en arrière, en filigrane un peu comment pouvaient vivre les gens. Hein. Bon, après, je vous avouerai que c'est au fil de la lecture, il y a un côté un peu, enfin, c'est un côté un peu terrifiant. Enfin, je veux dire, c'est qu'on sent quand même une emprise de la religion, voilà, qu'on a du mal à évaluer parce que, en fait, cet évêque arrive, on a l'impression que c'est le chaos, que le prêtre est un moins rien, que les jeunes n'ont pas d'instruction. Enfin, voilà, il y a un côté. Mais en même temps, il donne des. Par exemple, je vais lire un extrait parce que ça sera plus parlant. On sent le contrôle en fait de la religion. Alors après, moi, ce que je me demande toujours, c'est l'évêque, il venait une à deux fois dans tout le temps où il était évêque dans telle ou telle paroisse. qu'est-ce qui se passait vraiment entre ces deux visites. Vous voyez, est-ce que vraiment c'était si coercitif? On ne saura jamais vraiment. Mais par exemple, ce qu'il dit sur... Alors, on est à Méouille et Saint-André, hein. Donc il parle des laïcs. Quant aux laïcs, nous les conjurons d'avoir plus de pitié pour leur âme propre qu'ils n'en ont de travailler chrétiennement en songeant plutôt à se sauver qu'à se nourrir. Dotés de leur commerce, toute ombre d'usure est tout prêt à jour comme un poison qu'on peut cacher aux hommes, mais non pas à Dieu. Leur ordonnons aussi sous peine de la malédiction du Seigneur, d'éviter à l'avenir les paroles de blasphème dans leur maison, de retrancher le scandale des cabarets ouverts aux gens du lieu dans les saints jours, la profanation des fêtes par des voitures de denrées. En gros, en fait, ils transportaient du grain, etc., le jour du Seigneur, et ça, ils ne voulaient pas. Donc la profanation des fêtes par les voitures de denrées, par les travaux du paroir, des airs, hein, donc c'est les airs, c'est les terres, en fait, hein, du moulin et de la levée des dîmes. Et quant aux personnes qui ont violé depuis longtemps ou depuis peu le devoir pascal, nous chargeons le sieur prieur de les avertir en termes généraux à la messe paroissiale durant 3 dimanches consécutifs. Et si dans le dit temps, ils ne satisfont, il les avertira en particulier verbalement devant 2 témoins. Mais s'ils persistent dans leur refus, il nous en fera un certificat signé de ces témoins pour être procédé par nous, quoique avec douleur, à l'excommunion selon les canons. Ça rigole pas quand même. Hein. Donc là, on est juste, c'est le fait qu'il n'est pas communié au moment de Pâques. Hein, donc c'est vrai que quand on lit ça pour chaque commune, au bout d'un moment, on se dit, c'était quand même, terrible. Hein. Bon après, c'est le contrôle de la société par le pouvoir religieux. Mais voilà, donc heureusement, il y a d'autres choses qui sont. D'abord, il écrit très bien. Ça, je me lasse pas de le dire parce que c'est pas toujours le cas. Hein. C'est quand même, faut imaginer, c'est des tournées. Ils enchaînent en fait une paroisse sur paroisse. On pourrait s'attendre à ce que ça soit assez répétitif, assez normé. Enfin, en gros. Ils trouvent à peu près toujours les mêmes choses à dire, ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'en gros, ils constatent que le jour du Seigneur n'est pas tout à fait dédié au Seigneur uniquement, donc il n'est pas très content. Mais on voit quand même qu'il prend ça très très à cœur. Voilà. Donc j'invite tout le monde à vraiment se pencher sur cet évêque qui est vraiment un drôle de personnage. Je peux lire peut-être un autre extrait,
tout à fait.
Parce que là on a parlé des laïcs, mais vous allez voir que les prêtres aussi n'échappent pas à ces remarques. Alors on a Castellane cette fois. Comme les confréries, tant celles des pénitents que les autres, ont été dans leur origine de saintes conjurations de pénitence, mais sont quelquefois devenues dans la suite des comédies de religion, par les abus criants qui s'y sont glissés. Le premier, qu'on y fait consister souvent toute la pénitence dans la singularité de l'habit. Le second, que par un esprit tantôt de débauche pour les libertins, tantôt de gains sordides pour les saints patrons, on profane plus impunément les fêtes des confréries par des jeux, des danses, des ivrogneries. Alors là, j'ai dit une bêtise, il ne parle pas des prêtres, mais bien des confréries hein, de pénitents. Alors là, on voit, hein, en gros, au début, les confréries, on débute pieux, et puis bon, ça dévie. Alors c'est pareil, il est évidemment c'est un comptable aussi, hein. Il vient aussi pour faire le point de l'argent, donc il reproche beaucoup, il a beaucoup de mal à se faire produire les livres de compte, alors il n'est pas très content parce qu'il soupçonne à juste titre sans doute qu'il y a des petits détournements d'argent. Donc ça, il le pointe régulièrement. Il accuse aussi très régulièrement les notaires de se mettre d'accord avec les familles. Vous savez, quand quelqu'un est décédé, par testament, en tout cas certaines familles, donnaient à l'Église des biens ou alors donnaient de l'argent pour qu'on prononce des messes pendant X années. Et alors évidemment, les héritiers n'étaient pas très contents parce que c'était
un manque
à gagner pour l'héritage. Oui. Donc, ils soupçonnent, sans doute à juste titre, les héritiers de se mettre d'accord avec les notaires pour faire disparaître certains actes. Et donc, à plusieurs reprises au cours de ces visites. Il demande vraiment aux prêtres de chercher et de prouver que telle donation a bien été faite, que telle terre appartient bien à l'Église, et même d'en dresser une liste à afficher au vu aux yeux de tous, sur, en général, c'est sur la porte de la sacristie, histoire de dire, voilà, de bien faire valoir ses droits. Donc voilà, il n'y a pas évidemment que le côté spirituel qui le préoccupe. Le côté temporel est aussi évidemment très très important. Donc, il faudrait que je vous trouve un petit extrait concernant les religieux, parce que, enfin les prêtres, pardon, parce que c'est vrai que parfois ils n'échappent pas à ces remarques qui sont sanglantes par moment. Il y en a une qui était très drôle, parce qu'il y en avait un au début, je crois, où vraiment il trouve qu'il est vraiment nul, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Alors, on est toujours à Castellane. Alors, désapprobation du Seigneur André Rondeilla, prieur de Castellane, en raison de ses nombreux manquements. Ordre qu'il fasse une retraite de 3 mois. Interdiction de toute fonction ecclésiastique. Nous, évêques, voyant le peu de fruits de nos remontrances paternelles, souvent faites ci-devant au sieur André Rondeilla, prieur de Castellane, touchant son ministère. Oui, les réquisitions du promoteur. Le promoteur, c'était une espèce de... On parlera aujourd'hui de secrétaire général, quelqu'un qui administrait, enfin qui était un peu qui supervisait un peu ce qui se passait. Donc oui, les réquisitions du promoteur et les plaintes des paroissiens sur ses négligences, par nous vérifiées, les profanations de son église qu'il a longtemps causées par des tas de crânes et d'ossements de morts sous la table des saints autels, ses dissipations dans ses prônes et l'hérésie qui lui échappa et qu'il s'attacha néanmoins à vouloir prouver en une de ses instructions contre la résidence personnelle du Saint-Esprit dans les âmes justes. Et quant aux calomnies respectivement prétendues par le dit prieur et par les dits secondaires dans leurs comparants et requêtes, parce qu'en fait il y a eu carrément un procès visiblement, et à la prétendue simonie pour l'administration des sacrements, donc la simonie, vous savez, c'est le fait de monnayer en fait les indulgences, c'est le commerce qui évidemment interdit, et la prétendue simonie pour l'administration des sacrements, les dits faits ayant paru encore plus important dans la visite qu'il n'avait semblé d'abord, nous renvoyons les parties à notre officialité. Et en fait, il faudrait que je retrouve la fin, parce que ce qui se passe, c'est qu'en gros, il lui dit de... J'essaie de retrouver le... Excusez-moi, hein, petit blanc. Non, mais je ne le trouve pas. En fait, oui, il lui dit d'aller faire une retraite pendant 3 mois en espérant du plomb qui vienne dans la tête. Après, ce qu'on voit aussi, c'est combien il y a un problème d'instruction. Hein. Il y a un problème d'instruction générale, mm-hmm, et aussi, évidemment, un problème d'instruction parmi les prêtres. Hein. On a finalement... les villages ont un peu les prêtres qu'ils méritent, parce que souvent, les prêtres étaient issus de la communauté villageoise. Pas toujours. C'est aussi pour ça que l'évêque Soanen essaye de faire en sorte d'insister sur la nécessaire instruction des enfants. D'ailleurs, il fustige les parents qui, pour des raisons évidemment économiques, n'envoient pas leurs enfants à l'instruction. Alors, c'est l'instruction religieuse, on est bien d'accord, mais n'empêche que les enfants apprenaient aussi à lire et à écrire par ce biais-là. Parce que, il dit, c'est aussi un manque à gagner pour le futur, pour qu'il y ait un prêtre qui, issu de la communauté, qui accède aux fonctions ecclésiastiques. Donc il est attentif à ça. De même, ça c'est plus étonnant, puis ça, c'est, évidemment on a remarqué ça parce que nous sommes archivistes, il déplore très souvent qu'on ne soit pas en capacité de lui montrer ce qu'on appelle les registres de baptême, ce qui est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état civil. Donc, en fait, il y avait plusieurs registres. Il y avait un registre de baptême, de mariage et de décès. Alors, c'était hyper important parce que ça permettait d'abord de savoir qui était né, qui se mariait, qui décédait, hein, simplement de comptabiliser la population, mais aussi de vérifier les liens de parenté pour les mariages. Parce qu'évidemment...
Il y avait beaucoup de mariages consanguins à l'époque.
Normalement, le registre de baptême était censé éviter ça, hein, puisque ça permettait de savoir les liens de parenté entre les uns et les autres. Et donc, il reproche beaucoup... en fait, on lui montre très rarement les registres de baptême, parce que soit ils sont mal tenus, soit ils ont été emmenés par les uns et les autres, et donc ils utilisent le terme de bien public pour ces registres, ce qui est très intéressant parce que aujourd'hui c'est la notion très moderne qu'on a pour ce qu'on appellerait aujourd'hui une archive publique. Et d'ailleurs, les registres de baptême se trouvent désormais aux archives départementales pour ceux qui ont survécu aux aléas de l'histoire. Et alors ça, il revient systématiquement parce qu'en fait, il en voit très très peu. Là, fin 17e, il a beaucoup de mal à se faire produire et à examiner les registres de baptême parce qu'ils sont pas bien tenus. Et il le déplore, et il insiste lourdement sur la valeur publique de ces registres, ce qui est éminemment moderne, pour le coup. Voilà. Je sais pas, vous vouliez poser une question ? Non, je vous écoute.
Non, moi je bois vos paroles, c'est très intéressant.
Ouais. Non, c'est vraiment, de toute façon, c'est... vous savez, quand on fait de l'histoire, on essaie toujours de savoir qu'est-ce qu'on pourrait aborder comme source qui nous permette justement de se donner une idée de comment les gens vivaient. Hein, on est dans l'histoire d'archives, les archives ça raconte aussi, comme vous le dites, des histoires. Hein. Donc, alors après, le problème c'est que c'est toujours un point de vue, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, quand on lit ça, on a l'impression qu'il y a une espèce de coercition terrible, une chape de plomb. Je ne sais pas quand vous imaginez que celui qui n'allait pas faire sa communion pascale était fustigé publiquement au cours de la messe pendant 3 dimanches de suite, qu'après on allait le voir chez lui, et que si jamais vraiment il le faisait pas, c'était quand même... Après, on peut voir le bon côté des choses. Par exemple, plusieurs fois, l'évêque Soanen reproche, alors il les nomme en plus, hein, il se gêne pas, à telle personne de, sous prétexte que sa femme est simplette, parce que c'est quasiment dit comme ça, de la laisser de côté, de ne pas s'en occuper, et il dit les liens du mariage, voilà, c'est, on doit, on est époux et à vie, hein, et donc c'est pas parce que sa femme est un peu folle qu'il faut cesser de s'en occuper. Donc on voit aussi, hein, comment les rapports devaient être durs. Hein, enfin, je veux dire, donc on peut voir aussi le bon côté des choses, c'est que le fait que ce personnage intervienne dans une communauté, il pouvait aussi apaiser certaines tensions, essayer de faire en sorte que voilà des gens ne soient pas mis à l'écart. Voilà, mais bon. On n'a que sa version. Après, il faudrait voir si d'autres ont pu donner d'autres versions. Mais en fait, on a très, très peu de... Très, très peu, là. Les premiers, vraiment... C'est, au 18e, on commence à avoir des textes... je ne parle pas pour le département, hein, mais notamment dans la région parisienne, des textes de bourgeois, par exemple, qui relatent la vie, ce qu'ils voient. Et ça, c'est fondamental, parce que sinon, l'histoire, on l'écrit au travers de documents publics ou de documents religieux. Et la vie des petites gens, toutes ces petites histoires de... Ben, effectivement, voilà, les gens, ben oui, ils travaillaient pendant 6 jours, et puis le 7e jour, après la messe, eh ben, ils dansaient. Parfois même, ils continuaient à travailler parce que le temps faisait qu'il fallait qu'ils terminent les travaux agricoles. Et puis voilà, parce que la vie était dure. La vie était dure. Et c'est dur, finalement, d'avoir une idée assez, assez précise de comment... il faudrait pouvoir recouper beaucoup, beaucoup de sources. Et plus on remonte dans le temps, plus la capacité de recouper les sources nous manque. Donc quand on a un texte comme ça qui, aussi subjectif soit-il, hein, parce que c'est l'évêque, mais qui, par des petites touches comme ça, nous laisse voir, entreapercevoir la réalité des légendes dans ces zones agricoles, c'est vraiment une source indispensable.
C'est quelle époque, vous dites ?
Alors, en fait, il a été évêque je prends une note, de 1696, et il a été démis de ses fonctions en 1727. Mmh. Donc là, par exemple, les textes que je vous ai lus sur Castellane, on est en 1708, hein, donc vraiment début 18e. Voilà, il faudrait que je vous trouve un autre petit extrait, parce que c'est tellement bien dit. Puis des fois, c'est drôle, hein, c'est presque drôle, tellement c'est... voilà, bon, après, c'est pas toujours... C'est pas toujours drôle dans le fond, mais c'est dit avec tellement bien que c'est tentant. Alors, voilà, par exemple, pour l'école. Et quant à l'école, elle est ordinairement régie par le sieur secondaire sous la petite rétribution de 10 cens. Et comme tous les garçons vivent de leur travail à la campagne, la classe finit d'ordinaire à Pâques, voilà l'ancêtre des grandes vacances d'été. Et il n'y en a point eu du tout en cette année, par la négligence des consuls, les consuls c'est l'équivalent des maires, hein, c'est consuls de la communauté, par la négligence des consuls ou par l'avarice des parents. Voilà, c'est-à-dire que les consuls n'insistaient pas lourdement pour qu'on envoie évidemment uniquement les garçons. On est bien d'accord, l'instruction des enfants, c'est uniquement les garçons à l'école. Et puis les parents n'avaient pas forcément envie de donner un petit peu d'argent. Après, y a une communauté où il est dit que le prêtre fait l'instruction gratuitement. Mais alors, ça fait encore plus hurler l'évêque Soanen, parce que malgré ça, les parents n'envoient pas leurs garçons à l'instruction. Preuve que vraiment, ça rechignait. Voilà, c'est sûr que l'instruction, c'était quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place. Mais c'est intéressant de voir que là, on est début 18e, il y a quand même des préoccupations sur ce sujet. Qu'est-ce que je pourrais vous lire encore un petit extrait, parce que c'est vraiment ça, c'est que j'en ai beaucoup noté, donc du coup je suis un peu perdue dans mes notes. Tata. C'est dommage, je peux pas faire la petite musique d'attente.
Ouais. Je vais chanter. Alors.
Voilà, vous allez chanter. Non, ça ferait pas plaisir à notre bon évêque Soanen, qui n'aimait pas trop. Après, bon, je ne sais pas après comment il était en dehors de son, en dehors des tournées. Mais enfin, je soupçonne quand même que ça devait pas être un rigolo. Hein, mais bon. Alors oui, alors ce qui est intéressant, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, mais ça c'est intéressant en fait pour faire valoir les droits de l'Église, il remonte à des archives anciennes. Et donc il dit, hein, alors, soit il consulte des ouvrages d'histoire, hein, parce qu'il y avait déjà des ouvrages d'histoire écrits notamment par un certain, alors le nom m'échappe, donc je ne vais pas vous le dire. Ça s'appelle La chorographie de Provence. Peut-être que certains d'entre vos auditeurs connaissent cet ouvrage. Donc il consulte des ouvrages d'histoire déjà écrits sur la Provence. Et il consulte des archives, notamment il cite très régulièrement l'affouagement de l'an 1200. Il cite même des archives de l'an 1000, ce qui est quand même assez extraordinaire, hein. Évidemment, dont certaines ne sont plus du tout accessibles de nos jours, soit détruites, soit disparues. Donc c'est vraiment intéressant pour nous, quoi. Alors voilà, donc je vais vous lire un... Alors là, voilà, ça c'est justement un prêtre qui est dans l'œil du cyclone de l'évêque Soanen. Alors là, nous sommes à, j'essaie de voir dans quelle commune nous sommes à Soleillas. Mm-hmm. Comme le bon exemple des ministres du Seigneur doit être la règle et la sanctification du peuple, et que le sieur Honoré Reboule, prieur de Soleillas et chanoine prébandé, de Senèse, ne peut édifier par son absence depuis longtemps ni le lieu de Soleillas, ni notre cathédrale. Bon, en gros, il n'est pas là. C'est-à-dire, il touche l'argent en tant que prêtre, mais il n'officie pas. Il n'est pas présent. Nous ordonnons que ce fait sera poursuivi dans notre officialité selon les formes du droit à la diligence du promoteur. Pareillement, sur le mépris fait de notre bonté et de nos ordres par le sieur Louis Bertrand, prêtre, et sur le dessein qu'il a témoigné de quitter le diocèse contre notre défense, nous ordonnons que si le cas arrive, que ledit sieur Bertrand sera interdit, ipso facto, de toute fonction de ses ordres dans notre diocèse, afin d'empêcher la contagion de tels violements des saints canons. Exhortons les autres prêtres et clercs à se faire honneur de la modestie cléricale, à s'abstenir de tout jeu, principalement avec des séculiers, à se souvenir que la moindre portion de la charge pastorale ne laisse guère de moments à perdre pour peu que l'on pense au compte terrible qu'il faut rendre à Dieu de ce troupeau, et à maintenir la paix partout en sacrifiant, même quelque chose de leur intérêt pour conserver la perle précieuse de la charité. Donc là, en filigrane, on voit bien que ça ne devait pas trop assurer niveau prêtre. Soit ils n'étaient pas là, soit quand ils étaient là, ben leur pro n'était pas fantastique, c'est pas des modèles. Voilà, donc c'est... Alors après, hein, alors ça c'est le petit chapitre sur les prêtres, et puis alors après il y a les laïcs, toujours à Soleillas, qui décidément ne trouve pas trop grâce à ses yeux. Nous enjoignons aux laïcs de déraciner dans leur famille toute coutume de profaner les dimanches par des travaux serviles, principalement voitures, airs ou moulins. Donc là on retrouve, hein, c'est-à-dire en gros ils ont des charrettes de blé, que sais-je encore. Airs, c'est parce qu'ils travaillent la terre, et moulins, ben, ils font la farine. Défensons sur prête d'absoudre ou de marier, sinon après un pardon demandé publiquement à la porte de l'église un jour de dimanche, ceux ou celles qui scandaliseront le public par un mauvais commerce avant leur mariage. Voilà, on a compris. Ceux ou celles qui danseront à l'avenir publiquement, soit le matin ou le soir, dans des fêtes commandées, tout le jour étant entièrement consacré à Dieu. Ceux ou celles qui pratiqueront la superstition païenne, ah ben nous y voilà justement, d'aller dormir à la campagne sur le tombeau d'un prétendu saint non reconnu, en s'imaginant follement que ceux qui dorment durant leur prière seront guéris, pendant que ceux qui prient toute la nuit sans dormir n'obtiennent rien, et au surplus, renvoyons à notre visite de 1704 l'amendement des autres vices dont nous recommandons l'extirpation. Voilà, donc là, c'est quand même incroyable, quoi. Enfin, il va quand même pas de main morte, comme on dit. Voilà, et donc après, après, si vous voulez, quand il faisait ses visites, il chargeait le prêtre de faire appliquer ses préconisations. En gros, c'est ça. Hein. Et donc, il fallait qu'il... parfois même qu'il affiche certaines choses, qu'il y revienne dans ses prônes les dimanches suivants. Enfin, on martelait bien le message de l'évêque. Voilà. Et là aussi, ce que je n'ai pas dit, il comptabilise la population. Alors évidemment, c'est les communiants. Hein. Donc on a en plus, là on est début 18e, pour chaque commune, on a une idée de la population de chaque village par le biais de ses visites pastorales. Hein, donc par exemple, là, les laïcs ont fait leur devoir pascal. Ils sont toujours au nombre de 310 communiants, tant dans le village que dans les 6 hameaux. Le village a 40 habitants, Laval 5, le Défaut 5, la Faille 6, en fait, il y a tous les hameaux, hein, Latte 26, la Baumette, les Lômes et Brunet qui sont ensemble 29, tous en grande paix, excepté le procès du hameau de la Latte pendant notre officialité contre notre chapitre. Là, on n'a pas le détail, et le surprieur. Mais nous n'avons pas eu la consolation de les voir un peu plus corrigés sur l'habitude des imprécations et sur la profanation des fêtes. Ça, c'est vraiment la profanation des fêtes, hein, c'est le fait de danser. Parce qu'en fait, chaque village avait une fête, ce qu'on appelle une fête votive, hein, avait un saint patron. Il y avait une fête pour chaque village, qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui encore dans les traditions, hein, il y a encore quelques fêtes votives. Et les gens dansaient pendant ces fêtes, et là, ça n'allait pas du tout. Voilà.
Donc, on va mettre la musique que vous avez choisie.
Oui, alors c'est juste un petit clin d'œil, parce que justement, comme l'évêque Soanen n'appréciait pas trop la danse, j'ai choisi un morceau très dansant. J'espère que l'évêque ne m'en voudra pas. Thank you.
Et on retrouve Laure Franek pour Histoire d'archives avec, après ce beau passage de l'évêque Soinel. On va parler d'actualité.
Oui, parce que là, c'est la rentrée pour nous aussi aux archives. Donc, nous venons tout juste d'inaugurer la dernière exposition consacrée à la Grande Guerre, hein, qui clôt ce cycle de 4 années dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc, l'exposition concerne évidemment la période 1917-1918 et évoque la victoire, mais surtout la victoire des morts, hein, puisque c'est une guerre qui a été sanglante des deux côtés et qui montre certes la victoire, mais aussi comment le pays s'est ensuite couvert de monuments aux morts, le nombre d'orphelins, de veuves, comment la vie a dû reprendre parfois difficilement pour les uns et les autres, les blessés aussi. Donc ça, cette exposition sera visible aux archives pendant un an, hein, pour clôturer ce cycle de 4 années. En même temps, il y a toujours l'exposition sur les mosaïques de Ganagobi qui se termine à la fin du mois de septembre à la cathédrale. Et en parallèle, nous avons produit une exposition itinérante sur donc ce qu'on appelle des kakémonos, hein, vous savez, sur des bâches qui sont autoportées. Cette exposition est consacrée aussi à Ganagobi et elle reprend plus largement les textes de notre petit journal qui a eu tellement de succès qu'il n'y en a plus déjà. Mmh. Donc on s'est dit qu'on allait valoriser aussi les textes du petit journal dans une exposition itinérante, donc qui reste aux archives pendant un mois, jusqu'à mi-octobre, et qui partira ensuite au monastère de Ganagobi, où elle restera sans doute assez longemps.
Donc ça, c'est l'exposition des kakémonos.
Voilà, sur kakémonos, qui est consacrée à l'histoire de Ganagobi, et mm-hmm. plus précisément, l'histoire de la restauration des mosaïques de Ganagobi, mais pas seulement. C'est vrai qu'à la cathédrale, on a quasiment parlé que des mosaïques et de leur restauration, et puis un petit peu aussi les modifications de l'état de l'église. Mais dans le petit journal, pour ceux qui ont pu l'avoir entre les mains. D'ailleurs, je rappelle que toutes nos publications gratuites sont en ligne et téléchargeables sur notre site internet. Donc, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller dans notre site Archives 04 et aller voir l'onglet publication. Tous les petits journaux sont téléchargeables. Donc, du coup, comme dans ce petit journal consacré à Ganagobi, on n'avait pas seulement évoqué les mosaïques, on avait aussi parlé du cimetière, on avait parlé de l'église, de son statut d'église paroissiale, et puis après, elle n'a plus été église paroissiale. On a parlé du statut de Ganagobi en tant que monument historique. Voilà. Donc ça faisait des textes qui n'avaient pas été valorisés dans l'exposition à la cathédrale, qu'on a décidé de valoriser par le biais de cette petite exposition itinérante, qu'on a fait en 2 exemplaires. Un donc qui partira au monastère de Ganagobi, et un qu'on souhaite voir tourner largement dans le département, comme ce qu'on propose pour toutes nos expositions itinérantes. Voilà, donc ça c'est pour l'actualité des expositions, à laquelle sont associées des conférences, mais qui auront lieu plutôt à partir de novembre. Après, notre grande actualité aussi, ce sera samedi 7 octobre, à la salle de l'abbé Ferraud, à la mairie de Digne. Nous organisons conjointement avec une association qui s'appelle Mémoire et Résistance Haute-Baronnie, qui est une association, comme son nom l'indique, qui est dédiée à la mémoire de la résistance, qui est basée dans la Drôme, mais qui travaille sur tout le département. Et cette journée d'études aura pour thème la répression de la résistance, et notamment évoquer la fameuse division Brandebourg, qui était une division de Français, qui donnait des coups de main armés, parfois très violents, pour réprimer la résistance et détruire les maquis. Donc là, on commence à bien connaître cette division Brandebourg par le travail de plusieurs historiens et évidemment l'étude des archives. Et donc, ce sera l'occasion de faire le point sur cette page un petit peu noire de l'histoire du département et de la région plus largement, parce que cette division n'a pas officié uniquement dans le département.
Donc, vous parlez donc, ça, c'est une journée ?
Alors, c'est toute une journée d'études, voilà, qui démarre.
Ouverte à qui, alors ?
À tout le monde, voilà, oui. C'est ce que j'allais dire. L'entrée est libre. L'entrée est parfaitement libre, on n'est pas obligé de venir non plus à toute la journée. Le programme est en cours de finalisation pour qu'on sache exactement quels seront les intervenants. Il va être prochainement mis en ligne sur notre site dans le courant de la semaine prochaine. Et alors donc l'entrée est libre. La seule chose, c'est qu'il y a un repas qui est géré par l'association Mémoire et Résistance Haute-Baronnie. Et donc là, si les gens veulent participer au repas, il faut s'inscrire auprès d'eux et puis payer évidemment la somme qui est échue. Mmh. Donc voilà. Mais après, c'est un repas qu'on a proposé d'abord pour les intervenants, parce que certains viennent de loin, mais toute personne qui est intéressée pour participer et échanger au cours du repas est la bienvenue. Il faut juste s'inscrire soit auprès de nous, soit auprès de l'association. Voilà. Donc ça, j'invite tout le monde à venir, parce que, alors, il faut le dire, c'est la deuxième journée. En fait, il y en a eu une première qui avait été organisée l'an dernier dans la Drôme, justement, par cette association, à laquelle Monsieur Labadie, notre directeur, s'était rendu pour faire une communication sur la répression allemande. Il y avait des Allemands qui s'étaient déplacés pour l'occasion. Il y aura à nouveau des chercheurs allemands qui viendront le 7 octobre à Digne. Voilà, c'est aussi une manière d'échanger avec nos anciens ennemis, les Allemands. Et c'est important aussi de se donner des temps comme ça. Alors, au cours de cette journée, les gens pourront regarder aussi notre exposition sur la répression allemande, qu'on sortira à ce moment-là, qui sera exposée à la salle de l'abbé Ferraud, vraiment pour le public de la journée d'études. La librairie La Ruelle proposera des ouvrages ayant trait à la Seconde Guerre mondiale en vente. Et les archives proposeront aussi en vente leur publication. Je pense que Mémoire et Résistance Haute-Baronnie proposera certaines de leurs publications. Voilà, ce sera l'occasion de venir compléter sa bibliothèque d'histoire. Voilà, donc j'invite tout le monde à venir nous rendre visite.
Oui, eh ben c'est très bien, un timing excellent.
Oui.
Voilà, vous avez tout dit pour les rendez-vous.
Oui, tout à fait. Les rendez-vous là, jusqu'au début octobre.
Voilà.
On aura l'occasion de se revoir en octobre pour parler de ceux de novembre-décembre.
Voilà, très bonne journée à tous. Merci Laure,
merci.
À bientôt.
Merci Odile, au revoir. Odile, au revoir.